Bon, Jean-Bernard Leroy a l'appareil. Nous allons reprendre l'examen des commandements de Dieu, cette fois-ci avec le 9e commandement de Dieu, qui dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». C'est un commandement de Dieu qui traite de l'amour humain, un chef-d'œuvre de Dieu trop souvent défiguré par les hommes. Si le 6e commandement de Dieu est en quelque sorte celui de la gourmandise, le 9e, tu ne commettras pas l'adultère, est sans conteste celui de l'amour humain, de l'amour d'un homme et d'une femme, qui sont chacun uniques pour l'autre. La profondeur de ce commandement est attestée dès les prophètes, qui nommaient adultère le comportement du peuple hébreu lorsqu'il était idolâtre. Le prophète Osée en fut un témoin jusque dans sa vie privée. Le Seigneur lui dit « Va épouser une femme portée à l'adultère et accepte ses enfants adultérins, car le pays se méconduit envers le Seigneur. Mais la femme rentrera en grâce, je te fiancerai à moi pour la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » Plus tard, saint Paul fut encore plus précis en affirmant que le mariage est l'image de l'union du Christ et de son Église. Il s'agit donc d'un très grand commandement, le seul peut-être, avec le premier, qui prenne ses racines dans la terre et débouche directement dans le ciel. Les autres sont plutôt un mode d'emploi du temps qui nous est octroyé ici-bas. La sexualité humaine est un sujet de grandeur remarquable, qui est souvent considéré comme difficile à aborder, tellement il est fondamental et tellement il risque de déboucher sur un trouble profond dont les manifestations les plus fréquentes sont l'érotisme, la pornographie ou simplement la bonne vieille histoire de fesses. Et pourtant, la sexualité est une intention prodigieuse du Créateur. Chacun sait que tout être vivant a un ensemble de chromosomes dans lequel est inscrite toute sa personnalité. Cette personnalité, cette âme, au sens où l'entendait saint Thomas d'Aquin quand il parlait d'âme végétative ou animale, l'âme humaine étant la seule être spirituelle à l'image de Dieu, cette âme donc est liée à une certaine quantité de matière indifférenciée, matière qui permet la multiplication des êtres. Mais si les êtres vivants se contentaient de se dédoubler, nous aurions des branches d'individus semblables les uns aux autres, un peu comme de vrais jumeaux. La sexualité, en permettant un échange de chromosomes ou plus exactement l'élaboration de chromosomes complètement nouveaux, à partir des anciens, multiplie à l'infini la variété des individus à l'intérieur d'une même espèce. Que l'on pense aux innombrables races de roses, de tulipes, de vaches, de chats, de chiens, dont l'homme a suscité l'apparition en se servant des possibilités de croisement et de sélection liées à la sexualité. Dans notre monde merveilleux, il n'y a jamais deux êtres identiques. C'est avant tout la sexualité qu'on le doit. Lorsqu'on sait le livre de la science est une merveille où Dieu éclate à chaque page. Quant à la variété des êtres vivants, on sait très bien qu'il n'y a pas 200 touches dans un piano, mais que la variété des airs qu'on peut en tirer est quasiment infinie. Les découvertes biologiques se succèdent à un rythme accéléré, le plus souvent pour notre admiration, voire notre édification. C'est ainsi que le professeur Lejeune a dernièrement fait état d'une découverte fondamentale. Lors du développement de l'embryon, les nouvelles cellules sont à la fois marquées par le père et par la mère, mais d'une manière qui n'a rien d'indifférent. Elles le sont toujours de la même manière, ce qui signifie qu'il serait impossible de constituer un être humain en activant artificiellement un ovule, a fortiori un spermatozoïde. Il est indispensable d'avoir un père et une mère sur le plan simplement physiologique. Et que dire de l'éducation ? Si ce n'est que l'homme a de tous les animaux, celui qui a besoin de ses parents le plus long, le rôle de la mère et du père sont reconnus unanimement comme complémentaires, sauf chez quelques rares pseudo-philosophes dégénérés. À 2 ou 3 ans, même les mammifères sont émancipés, et 12 ans est encore bien jeune chez l'homme. On peut aussi rappeler que notre Seigneur a tenu à avoir un père terrestre, père qui dirigeait la liturgie domestique, notamment lors de la fête de Pâques si importante chez les Juifs, non pas bien sûr un père selon la chair, mais un père virginal, comme l'a dit saint Augustin dans un saisissant raccourci. La pensée de saint Joseph dirigeant et guidant la prière de l'enfant Jésus a quelque chose de vertigineux. La sexualité humaine qui débouche sur un tel tableau ne peut être que quelque chose de sacré. On n'insistera jamais assez sur la grandeur incomparable de l'homme dès qu'il se place sous le regard de Dieu, et cela dans toutes ses dimensions, y compris celle de la sexualité. Sous l'influence d'innombrables puritains et jansénistes, on a voulu faire du sexe une espèce de tabou, au sens superstitieux du terme, et de l'amour humain sous son aspect physique un mal nécessaire. Le résultat était prévisible. Si on ferme soigneusement toutes les issues d'une chaudière, elle explose. On a alors ce curieux mélange de pruderie scrupuleuse et d'exhibitionnisme débraillé. On rend punissable par la loi le fait d'offrir une boîte de chocolat à une secrétaire, pendant que les mœurs contre nature sont glorifiées à longueur de colonnes de journaux. Il faut redonner à la sexualité humaine telle que Dieu l'a voulu, toute sa grandeur, telle que le Saint-Père l'a rappelé au début de son pontificat, je parle de Jean-Paul II, sous les cris horrifiés d'austères censeurs qui le taxaient de coupable d'obsession sexuelle, je l'ai lu, tandis que d'autres esprits forts l'accusaient de se contenter de rabâcher des principes d'il y a longtemps, comme si la nature humaine changeait au gré des élections. La Genèse insiste sur le fait que l'espèce humaine fut créée homme et femme, chacun étant complémentaire de l'autre. L'opinion de saint Paul selon laquelle la femme a été créée pour l'homme est à rapprocher de la phrase de la Genèse « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». L'homme est gravement incomplet quand il est seul. On pourrait dire aussi que l'ange gardien a été créé pour l'homme. Est-ce un signe d'infériorité? En ce cas, que penser de l'incarnation voulue pour notre salut? La splendeur de l'amour humain peut se décliner de diverses manières. Amour est toujours. Tout a été dit sur ce thème. Dans la mesure où il s'agit d'un amour véritable qui trouve en l'autre son bien et qui s'épanouit dans la volonté d'une œuvre commune, il ne peut jamais s'agir d'un contrat à terme. Un amour véritable ne saurait être qu'un engagement définitif. Quel amoureux dirait « je t'aime pour 24 heures ou même pour 24 ans » Un exemple à contrario peut être donné par cette réclame, lue hélas récemment dans le métro parisien « Faut-il signer un contrat de concubinage ?» J'avoue avoir été consterné et m'être demandé en quoi pouvait bien consister un tel contrat. S'agit-il de la location d'un corps, d'une fourniture réciproque de services? S'il s'agit de la recherche d'un confort, d'un plaisir, de la cuisine au lit, on peut envisager un contrat. Mais s'il s'agit du don d'une personne à une autre, poser la question revient à y répondre. En lisant certains ouvrages du siècle dernier ou du début de ce siècle, on vient à penser qu'il a manqué un chantre inspiré de la flamboyante union charnelle de l'homme et de la femme dans l'amour partagé. On en est bien vite venu à confondre amour et sexe. Dès lors, l'amour chassé de son niveau spirituel d'origine, elle est l'os de mes os et la chair de ma chair, comme l'a dit Adam, l'amour s'est confondu avec une activité dont le seul but est le plaisir. Il suffit pourtant d'être en contact avec un véritable amour pour saisir qu'il en va bien autrement. Au-delà du baiser, même si celui reste toujours, sauf exception rarissime, le point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer, il n'est que de rappeler les poètes, les musiciens, le concerto pour piano de Schumann, tout de lumière et de passion, on comprend alors mieux la subversion fondamentale du freudisme, car tout ramené au plaisir essentiellement sexuel revient à affirmer que l'amour consiste à asservir l'autre à son désir, être aimé étant la pire des aliénations par cela plus totale. On ne peut en sortir qu'en tuant celui qui vous aime, c'est-à-dire qui vous a servi. Subversion radicale du don de sagesse, tout amour doit être tué. Il est difficile d'aller plus loin dans la haine de Dieu. Au risque de répéter des choses qui paraissent trop connues, ce qui ne les empêche nullement de faire scandale à l'heure actuelle, l'amour est essentiellement le choix d'une personne en vue d'une œuvre commune, cette personne étant considérée comme son bien, c'est-à-dire comme son complément indispensable sans lequel la vie perd le principal de son attrait. Son bonheur est notre bonheur. Dans tous les cas, il y a œuvre commune. Dans le cas général, c'est l'accueil et l'éducation des enfants. Dès lors qu'il regarde une personne, au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire un être dans ce qu'il a de plus profond, l'amour est complètement indépendant de l'altération d'un caractère ou de la dégradation d'un tour de taille. À la limite, l'activité sexuelle qui accompagne normalement le mariage dont elle est un temps fort, comme on dit actuellement, n'est pas suffisante, ni même indispensable. Pour un chrétien, c'est évident. L'amour conjugal qui liait la Sainte Vierge et Saint Joseph était sans doute le plus profond, le plus parfait que la terre ait connu et connaîtra. Vu sous cet angle, la fidélité conjugale va de soi. Revenir sur son choix, c'est se renier, s'aligner pour un caprice passager, misérable mensonge. L'amour libre, c'est la prison de l'égoïsme. La prochaine fois, nous essaierons d'approfondir la magnificence de l'amour chrétien.